Souvenirs de famille. Jean Filioza, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, est évoqué par son fils, Pierre-Sylvain Filioza, lui-même membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
S'il y a un mot parmi d'autres qui caractérise mon père, c'est celui de médecin. Médecin et savant, et quand il était savant orientaliste, il avait toujours son esprit de médecin.
L'académicien Jean Filioza est né à Paris en 1906, décédé à Paris aussi en 1982. Il est docteur en médecine dès 1930, il exercera comme ophtalmologue jusqu'en 1947. Puis il s'oriente dès alors vers l'indianisme et les hautes études, dont il devient un élève diplômé en 1934. Il publie sa thèse en 1937. Docteur ès-lettres dès 1946, avec une thèse sur la doctrine classique de la médecine indienne, il est élu en 1952 professeur de langue et littérature de l'Inde au Collège de France. L'année 1955 fut pour lui décisive, et pour les études indiennes en général. En effet, alors que la France renonce à sa souveraineté sur les 5 comptoirs de l'Inde, Jean Filioza fonde l'Institut français d'indologie de Pondichéry, dont il demeurera directeur jusqu'en 1977. De 1956 à 1977, il est également directeur de l'École française d'Extrême-Orient. En novembre 1966, Jean Filioza fut élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres au fauteuil d'Édouard Dorme. Il présida cette académie jusqu'en 1977, devenant alors également président de l'Institut de France.
Mon père m'a fait naître dans une bibliothèque sanscrite et je n'en suis pas encore sorti. Mon père est né dans une famille de médecins. Il était même petit-fils, petit-neveu de médecins. Il était destiné à la médecine. Donc il a fait des études tout à fait régulières, brillantes, à Paris. Il a fait des études de médecine classique de son époque. Et en même temps, et c'est là qu'il y a déjà quelque chose d'exceptionnel, il s'est intéressé à l'Orient. Alors là, il y a une circonstance particulière. Son père, qui était médecin otorino dans le 5e arrondissement, près du Panthéon, avait comme client, comme patient, un ami intime de Sylvain Lévy. Et un jour, mon père lisait dans le salon d'attente des patients un ouvrage où on parlait de l'Inde. Et le monsieur lui a parlé, s'est adressé à lui, lui a demandé pourquoi il lisait cela. Il a dit qu'il s'intéressait beaucoup à cela. La mythologie indienne, ça commençait à le passionner. Alors ce monsieur lui a dit « Mais j'ai un ami qui est Sylvain Lévy ». Et il a emmené mon père auprès de Sylvain Lévy. Il s'est instauré, je crois, un lien d'amitié en même temps que le vieux maître et le tout jeune disciple qui commençait juste ses années de médecine. Et c'est un lien qui a duré, je crois, jusqu'à sa mort. Mon père a eu toujours une admiration sans borne pour Sylvain Lévy et il a été marqué par cela, si bien que ça l'a déterminé pour toujours à travailler dans le domaine de l'orientalisme tout en continuant la médecine. Il avait la vocation médicale, il a eu aussi la vocation d'orientaliste. Quand j'étais enfant, je ne savais pas que c'était une grande personnalité et quelqu'un d'un esprit, un cerveau exceptionnel. Parce que mon père, d'abord, maîtrisait beaucoup de langues et puis ensuite, c'était quelqu'un qui avait toujours raison. Il appartenait à une génération où les parents étaient beaucoup plus sévères que nous ne le sommes maintenant. Donc mon père était sévère. Et surtout, quand on essayait de dire quelque chose qui venait de notre cru, de notre propre imagination, alors là, généralement, ça se passait assez mal parce que, je le répète, il avait toujours raison. Un esprit logique, parfait, et puis l'acuité de voir tout de suite le défaut. Et c'est là que je trouve qu'il a toujours été médecin. Parce que le médecin, il fait une première observation pour déceler les symptômes et puis faire son diagnostic. Alors, mon père avait un talent particulier pour voir tout de suite chez le malade la chose qui n'allait pas. Un diagnostic aigu, et il avait une capacité de diagnostic tout à fait exceptionnelle. Tous les médecins ne réussissent pas la même chose. Mon père s'est lié d'amitié avec une personnalité tout à fait exceptionnelle, originaire de Carical, le petit établissement français au sud de Pondichéry, qui s'appelait Léon Saint-Jean, qui était chrétien converti, d'où ce nom chrétien. Léon Saint-Jean était une personne remarquable qui faisait des études de droit à Paris. Il possédait très bien la culture française, il possédait aussi la culture tamoule de son pays. Et en plus, il avait des idées, il était entré dans le mouvement de l'indépendance et il luttait, il plaidait pour l'indépendance des établissements français et leur rattachement à l'Union indienne. Mon père a tout de suite sympathisé avec lui. Ils ont sympathisé sur le plan de la culture. Ils ont aussi sympathisé sur le plan de l'idée de la décolonisation. Nous sommes là dans les années 30. C'était à cette époque-là, c'était difficile déjà de parler de décolonisation en France. Mon père a été un des pionniers de cette idée. Et puis ensuite est venu, en 1955, le rattachement des établissements français à l'Inde. Mon père a beaucoup travaillé pour cela et il s'est attiré, il a obtenu tout de suite la sympathie de toutes les autorités locales, de toutes les autorités indiennes. Mon père avait écrit un livre général sur l'Inde moderne et puis évidemment ses traditions. Il en avait parlé avec une sympathie qui est inhabituelle à l'égard de l'Inde. Parce qu'une des grandes caractéristiques de mon père, et c'est peut-être ce que je lui dois le plus, mon père ne faisait pas de différence entre la culture européenne qu'il possédait très bien et puis la culture de l'Inde, la culture des pays d'Indochine qu'il connaissait très bien aussi. Pour lui, il n'y avait pas de décalage entre les deux. Il y avait un fond commun à toute l'humanité et puis évidemment des manifestations divergentes, mais plutôt extérieures. Et mon père croyait, acceptait l'idée d'une élévation d'esprit tout à fait exceptionnelle qu'il admirait beaucoup et caractéristique de la philosophie indienne et des religions de l'Inde. Alors mon père était médecin, donc il soignait l'homme. Et puis il aimait autant les productions intellectuelles de l'homme, quelles qu'elles soient. Il les acceptait comme une chose tout à fait naturelle, aussi naturelle que le corps humain ou les corps des hommes qui sont toujours un peu différents de pays à pays, de continent à continent. Il les acceptait et il les soignait, les hommes et les productions. A voulu installer un centre permanent de recherche sur le sanskrit, sur les langues de l'Inde, sur les religions, sur les monuments, sur place même. Et il a commencé par engager dans cette institution qui a été fondée en 1955. Il a commencé à engager des lettrés indiens, 2 ou 3 au début. Et puis le nombre s'est accru. Maintenant, je crois qu'il y en a une trentaine. Alors, mon père voulait qu'il y ait une institution d'État. Et ceci n'a jamais pu se faire pendant la domination coloniale. Elle s'est faite grâce à des démarches que mon père a faites avec Léon Saint-Jean, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire un champion de l'indépendance de Pondichéry. Et puis alors, 2 autres grandes personnalités indiennes, qui sont le Sardar Panikkar, un historien de la décolonisation en particulier et du mouvement de l'indépendance de l'Inde. Alors, lors d'un voyage en France, il avait rencontré mon père et un professeur de botanique. Et ils ont parlé de ce que la France pourrait faire à l'occasion du transfert de Pondichéry à l'Inde, du transfert de l'administration à l'Inde, ce que la France pourrait faire au point de vue culturel. Et Omji Baba a sympathisé avec cela. Donc le professeur de botanique, le professeur Gossen, a proposé de faire une carte de la végétation au millionième, qui était suivant des principes fondés par lui, pour la méthode de cartographie de la végétation en fonction de l'écologie. Mon père s'intéressait aussi à ce travail d'écologie naturelle. Il s'intéressait évidemment à la religion, aux langues locales, et aux littératures et aux arts. Il s'agissait de fondre les 2 choses ensemble. Omji Baba a accepté cette idée. Il était ami intime de Jawaharlal Nehru, le premier ministre à cette époque. Et Jawaharlal Nehru a facilité beaucoup la chose quand, à la fin de la conférence de Genève, il y a eu des pourparlers entre Mendès France, si je me souviens bien, et puis Nehru lui-même, et même le ministre chinois Chou Enlai. Et ils ont accepté l'idée, à l'instigation de Omji Baba, de laisser à la France une seule présence, la présence culturelle et la présence scientifique, pour les études d'écologie et d'indianisme. Alors ceci dure encore, et cet institut a été fondé quelques mois après la cession et le départ de l'administration française. Il avait évidemment énormément de travail administratif à faire. Il a été l'organisateur de l'Institut français de Pondichéry et aussi de l'École française d'Extrême-Orient, qui a des centres depuis l'Inde jusqu'au Japon. Et il était obligé de voyager. Il était responsable d'ailleurs en France aussi. Il était professeur au Collège de France, membre de l'Académie, vice-président de la Société asiatique, participant à toutes les commissions et toutes les réunions relatives à l'Orient, relatives à l'orientalisme. Il a beaucoup travaillé pour l'UNESCO aussi, comme expert qu'on appelait chaque fois qu'il y avait une question relative à l'Inde ou à l'Extrême-Orient. Donc il y a plusieurs lignes de recherche dans lesquelles il n'a pas eu le temps de produire un travail important, mais il a fixé la base. Et c'est dans cette ligne qu'il y a maintenant les principales entreprise internationale qui se développe. Était prêt à accueillir toute étude concernant l'Inde et l'Extrême-Orient. mais on ne peut pas tout faire. Il s'est particulièrement intéressé au tamoul. Et ceci remonte à sa vieille amitié avec Léon Saint-Jean, depuis la France même et depuis ses années de jeunesse quand il étudiait la médecine. Il s'est toujours intéressé au tamoul et jusqu'à son dernier jour. Et là, il a produit plusieurs travaux intéressants, en particulier une traduction d'un texte dévotionnel vishnouite, très populaire, et puis d'un texte de dévotion au dieu Murugan. Murugan, c'est un dieu typiquement tamoul qu'on identifie au dieu sanskrit Skanda. C'est un peu l'image du dieu beau et jeune dont on célèbre à la fois la beauté et le caractère transcendant. Il a fait des traductions de ces deux textes et il s'intéressait tellement à la nature, à la beauté de la langue tamoule, puisqu'il s'agit de poésie. Ce sont des textes d'une très belle sonorité et d'une grande richesse de vocabulaire dans un tamoule médiéval. Il remonte au 8e, 9e siècle de notre ère. Donc, dans ce tamoul médiéval qui n'est plus guère connu aujourd'hui, il a fait beaucoup de travail philologique et même de travail grammatical. Et il a fait un dictionnaire de tous les mots de ses textes et il en a fait des traductions, mais dans un style tout à fait particulier parce qu'il voulait respecter au maximum la fidélité au texte, même jusqu'à suivre l'ordre des mots. Alors cette poésie tamoule a une particularité qui est la densité. On fait des composés, des mots composés d'un nombre indéfini de termes, de très très longues phrases. Un poème entier, une page entière peut faire une seule phrase. Et l'on réserve les mots clés pour comprendre la phrase uniquement à la fin. Donc on a une suite de qualifications du terme qualifié que l'on apprendra seulement au bout de plusieurs minutes. Mon père a respecté cet ordre des idées et il a fait un effort de traduction très littéral, au point que sa traduction est presque quelquefois à la limite de la compréhension. C'est lui peut-être qui est allé le plus loin dans ce sens. Alors ça atteste son attachement, son amour, même personnel. S'il a eu une expérience littéraire particulière, c'était sur ses textes tamouls. Mon père s'est attaché à resituer les théories astronomiques dans le cadre des idées, disons, de la mythologie générale et des conceptions mythiques du monde. Là, il a eu aussi quelques idées intéressantes. Conclure, je ne peux insister que sur une chose, c'est l'ouverture de vue sur l'Asie dans son ensemble, parce qu'il a travaillé principalement sur l'Inde, mais il s'intéressait aussi beaucoup à tous les pays du sud-est asiatique, Indonésie comprise, et puis il a souvent voyagé en Chine et au Japon, surtout au Japon. La Chine étant fermée d'ailleurs pendant une longue période de sa vie. L'Inde a prédominé dans son œuvre et dans toutes ses activités. Elle a prédominé, c'est un choix qu'il a fait très jeune et c'est aussi un choix personnel. Il sympathisait pas tellement avec l'école philosophique de Shankara qui traite le monde comme une illusion. Il n'y a qu'une seule réalité, le principe suprême, et puis tout ce qui est phénoménal, c'est une illusion dont on doit chercher à s'échapper. Mon père était quand même plus réaliste, et il a opté plutôt pour le système de Ramanuja, dont il aimait beaucoup parler, sur lequel il a peu publié, mais enfin il en parlait beaucoup, je peux l'attester. Ramanuja fait du monde, disons, une qualification des épithètes du principe suprême. Le monde, les phénomènes, ce sont des vagues sur l'océan. L'océan, c'est une unité, c'est le principe suprême, et les vagues sont quand même une réalité, même si elles sont éphémères. Alors voilà la vision du monde qu'il avait quasi adoptée pour lui-même à partir de ses études de l'Inde. Thank you.